Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h40 sur RMC.
RMC. L'interview.
Bonjour Prisca Thévenot.
Bonjour.
Merci de venir répondre à mes questions en direct ce matin sur RMC. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance. Hein, Renaissance, le nouveau nom du parti qui a remplacé la République En Marche. Les sénateurs débattent à leur tour cette semaine des mesures sur le pouvoir d'achat, projet de loi de finances rectificative. Ils ont voté hier soir une mesure, les sénateurs LR notamment, contre l'avis du gouvernement, en pérennisant la possibilité de monétiser, de racheter les RTT dans les entreprises. Ils vous forcent la main, les Républicains, sur ce coup-là, ou est-ce que vous reviendrez sur cette mesure quand le texte va revenir à l'Assemblée ?
On voit tout simplement que les avis, les nuances politiques aujourd'hui ne servent pas simplement à s'opposer les uns aux autres, mais à enrichir des textes, à faire part d'avis aussi de Français, puisque nous représentons tous nos concitoyens. Et donc il ne s'agit pas de venir retoquer, mais de prendre acte d'une démarche qui a été faite au Sénat. Maintenant, nous allons voir quand cela va revenir à l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, je pense que nous ne devons pas voir ça comme une façon de battre le gouvernement, ou quand un amendement de l'opposition est rejeté, de battre l'opposition, mais plutôt d'enrichir nos textes pour qu'ils répondent le plus possible aux demandes et aux attentes des Français.
Cette mesure sur les RTT, elle était dans le programme de Valérie Pécresse. Vous l'aviez votée à l'Assemblée, mais pour un an. Et donc, les sénateurs ont décidé de rendre le dispositif pérenne. Est-ce que c'est vraiment la solution pour le pouvoir d'achat ? Est-ce que ce n'est pas offrir la solution parfaite aux entreprises pour dire à leurs salariés: non, je n'augmente pas votre salaire, mais rachetez plutôt vos RTT, travaillez plus pour gagner plus, mais sans augmentation de salaire.
Tout d'abord, rappelons que le texte pouvoir d'achat et le projet de loi de finances rectificatif n'a pas pour seul objectif de traiter des RTT. Car oui, en tant que tel, ça ne répond pas simplement et seulement à la crise du pouvoir d'achat que nous devons, sur laquelle nous devons combattre et lutter. Il s'agit bien évidemment de bien rappeler que pouvoir monétiser ces RTT ne représente pas une augmentation de salaire. C'est une mesure ponctuelle qui permet de répondre à une crise actuelle, mais qu'en aucun cas nous devons faire croire que ça viendrait remplacer les augmentations de salaire que nous souhaitons par ailleurs.
Mais là, c'est plus une mesure ponctuelle. Les sénateurs ont dit que ce sera un dispositif pérenne.
Oui, mais encore une fois, quand on viendra monétiser les RTT, quand ça se mettra en place au sein des entreprises, entre les employeurs et les salariés, ça ne viendra pas remplacer une démarche d'augmentation de salaire qui devra et qui pourra être mise en place quand cela sera nécessaire et permis dans les entreprises.
Mais c'est une option qui est permise, qui est offerte aux entreprises, comme l'est la prime Macron dont
Exactement. Le
plafond va être triplé. Est-ce que ça n'est pas tout sauf du salaire ? Comment justement inciter les entreprises à augmenter réellement les salaires ? Et est-ce que ça n'est pas ce qui manque dans cette loi ?
Vous savez, c'est effectivement une mesure très simple de dire on va obliger toutes les entreprises de France à augmenter les salaires. C'est très simple de le dire, c'est très facile et ça fait plaisir. Par contre, est-ce que c'est concret, réel ? Et est-ce que les conséquences sont bien celles que nous voulons ? Non, on l'a expliqué de nombreuses fois, nous au sein de la majorité présidentielle, mais pas que nous, et également de nombreux économistes l'ont exprimé. Parce que augmenter les salaires, c'est bien, mais avant de pouvoir redistribuer une richesse, il faut pouvoir la créer. Et donc c'est la mesure sur laquelle nous sommes engagés depuis maintenant 5 ans et sur laquelle nous allons continuer sur les 5 prochaines années, c'est rechercher le plein emploi. Parce que par le plein emploi, effectivement, nous arrivons à voir une force sur les salariés vis-à-vis du patronat, et donc nous pourrons augmenter les salaires de cette façon et de façon très claire. Aucune entreprise n'a intérêt à ne pas augmenter ses salaires quand elle le peut. Elle a tout intérêt à avoir ses salariés qui se portent bien, qui se sentent bien au sein de son entreprise. Et donc, par défaut, les entreprises augmentent les salaires quand elles le peuvent. Et ensuite, j'aimerais rajouter un dernier mot si vous me permettez. On a l'impression en ce moment dans le débat politique qu'il n'y a que les grandes entreprises d'un côté et le petit salariat de l'autre. Rappelons que majoritairement en France, ce sont des petites structures d'entreprises qui existent, entre 9 et 10 salariés. Et donc j'ai du mal à croire que nos petites entreprises ne veulent pas mieux rémunérer leurs salariés.
Il y a des images qui marquent aussi, et qu'on voit que Certes, les entreprises augmentent parfois les salaires, mais ce qu'on remarque, c'est que souvent, ce sont les salaires des hauts dirigeants qui augmentent le plus. Et on l'a encore vu avec Total, avec d'autres grands groupes ces derniers mois.
Vous avez raison, et là, notamment dans le cadre de la crise inflationniste dans laquelle nous vivons, nous devons faire attention à ce qu'il n'y ait pas de profiteurs de guerre. Et donc oui, nous avons des entreprises qui ont plus de profits qu'ils ne pouvaient avoir par ailleurs en temps normal, si je puis dire. Et donc ces entreprises-là, nous devons les inciter à pouvoir faire à leur niveau, au regard de leurs profits, un effort de guerre supplémentaire dans la crise inflationniste.
Mais est-ce que ça suffit ? Qu'est-ce qui vous dit que les entreprises vont répondre à votre appel d'augmenter les salaires, de faire un geste pour les consommateurs ? Alors, on a vu le geste de Total, mais beaucoup disent qu'il n'est pas à la hauteur de tous les profits qui ont été engendrés. Qu'est-ce qui vous dit que les entreprises vont vous suivre et que tout cet argent qui a été engrangé ne va pas finir dans la poche des actionnaires?
Ben, ça a déjà commencé. Vous parliez de Total. Effectivement, c'est 20 centimes qui vont être mis en place dès la rentrée. On peut parler aussi de CGM, pardon, avec le prix en baisse des conteneurs. On peut aussi parler du chèque énergie d'Engie. Mais est-ce qu'on doit se satisfaire de cela? Non. On doit le reconnaître, mais on doit permettre aussi que cela s'accélère dans le cadre de cette crise inflationniste. Ensuite, sur les actionnaires, j'aimerais aussi rappeler que beaucoup d'actionnaires, ce sont des petits actionnariats. Ce sont des pensions de retraite, ce sont des salariés aussi qui détiennent des parts dans leurs entreprises. Et donc, je pense que pour pouvoir avoir un débat sain et serein et surtout efficace pour la crise inflationniste que nous vivons, nous devons pouvoir regarder tout cela dans sa complexité.
Sur la taxe sur les super-profits, justement, le débat est revenu au Sénat encore hier. Et les sénateurs centristes ont défendu un amendement qui proposait une contribution exceptionnelle pour toutes les entreprises. Alors là, ça n'était plus seulement le secteur de l'énergie. Toutes les entreprises ayant enregistré l'année dernière un bénéfice en hausse d'au moins 20%. Cette contribution a été rejetée, mais alors le débat était très serré à une vingtaine de voix près. Le geste de Total, 20 centimes à la rentrée, va durer 2 mois. Ça coûte 500 millions à Total. La gauche estime qu'on aurait pu récupérer 4 milliards, 4 autres milliards CMA-CGM. Le Royaume-Uni l'a fait, une taxe à 25% sur les bénéfices des géants du gaz, l'Italie, l'Espagne. Pourquoi être autant bloqué, avoir bloqué dès le départ cette idée ?
On n'est pas bloqué. On est sur une logique assez simple pour le coup, c'est celle de tout de suite, maintenant, apporter des solutions pour le pouvoir d'achat des Français. Taxer, oui, ça apporte peut-être des solutions, mais pas déjà tout de suite et dans l'immédiat. Ensuite, vous parliez de
mais
cette proposition.
Les efforts
proposition.
Fournis sont quand même loin du compte par rapport à ce que les autres géants vont payer à l'étranger.
Non, mais soyons très clairs, effectivement, il y a déjà des efforts qui sont faits. Voyons comment ça évolue le plus rapidement possible, mais surtout le plus directement possible pour le pouvoir d'achat et le portefeuille des Français. Et ensuite, Bruno Le Maire a été très clair hier au Sénat. On a pu suivre les auditions et elles sont disponibles en direct. Il l'a dit, nous reparlerons sur le projet de loi de finances 2023 si nous avons besoin de rectifier le tir vis-à-vis de certaines entreprises. Mais l'urgence aujourd'hui...
Il y a une menace, il y a une épée de Damoclès. Si les efforts ne sont pas suffisants,
ne soyons
vous
pas
laissez libre l'année prochaine d'agir.
Vous saviez, vous parliez des salaires, vous parlez des prix. Les deux sont importants dans la crise que nous vivons. Venir aujourd'hui dire que nous allons surtaxer des entreprises alors que nous préférons les inciter, et ça fonctionne, à mettre des mesures en place, ça pourrait avoir un effet contre-productif. Déjà, elle pourrait se dire, bah, écoutez, on est en train de me surtaxer, je vais pas faire d'efforts pour essayer de baisser mes prix ni pour essayer d'augmenter les salaires. Et donc, voire même, je peux même avoir envie d'augmenter les prix. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, les mesures simples sont très alléchantes, elles sont très intéressantes aussi, mais pas au regard de l'objectif que nous avons, qui est un objectif court terme, aider les Français maintenant.
Alors aider les Français, justement, quand on voit l'inflation qui dépasse 6% aujourd'hui, qu'on attend au-delà des 10% à la rentrée, hein, c'est ce que disent plusieurs interlocuteurs, notamment dans la grande distribution, est-ce que ces mesures d'urgence vont suffire ? Comment les Français vont faire face à leurs dépenses de rentrée ?
Alors, effectivement, on a une crise inflationniste qui a son pic et qui devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, regardons que cette inflation, effectivement, est mondiale et que nous sommes le pays, en France et dans le monde, qui résistons le mieux. Est-ce que nous devons juste nous contenter de dire ça ? Non, nous devons agir. Et c'est ce que nous avons fait dès le début de cette crise inflationniste l'année dernière. Nous l'avons poursuivi cet été avec la poursuite des boucliers tarifaires, la déconjugalisation de l'AAH, la revalorisation des pensions de retraite et des minima sociaux, également la mise en place d'un chèque à la rentrée pour les foyers les plus fragiles, 100 euros, avec une augmentation au regard du nombre d'enfants par foyer. Il s'agit d'un ensemble de dispositifs qui permettent effectivement de
ça
venir pallier.
Un peu, mais on voit bien que ça suffit pas.
Écoutez, on est à 6, de ce qu'on disait hier, on était à peu près à 6% d'inflation. Regardons ce qui se passe. Je ne parle pas des États-Unis ou d'autres pays dans le monde.
C'est pire ailleurs.
Juste en Europe. Il s'agit pas de nous dire cocorico, on fait mieux que tout le monde. Il s'agit bien évidemment aussi de remettre un peu de temps en temps l'église au milieu du village. Parce que n'oublions pas que toutes les mesures qu'on nous prenons aujourd'hui, et il faut les prendre, 20 milliards d'euros pour protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est indispensable. Mais attention, nous avons aussi un impératif, c'est celle de la rigueur budgétaire. Parce que toutes les mesures que nous prenons aussi aujourd'hui auront des conséquences sur les années à venir et notamment sur les générations à venir. Donc nous avons un devoir de responsabilité.
Et sur le carburant, par exemple, vous avez dû renoncer sous la pression des Républicains, là aussi, qui vous ont un peu tordu le bras, à votre logique qui était celle d'aider les plus modestes, avec une aide qui était normalement destinée aux plus modestes et aux personnes qui ont besoin de beaucoup rouler pour aller travailler. Finalement, c'est une ristourne qui va se prolonger, mais seulement pendant 2 mois, à 30 centimes, septembre, octobre, qui va profiter à tout le monde et qui va même, les chiffres le montrent, profiter aux plus aisés. Est-ce que l'effet recherché est le bon là-dessus?
Mais effectivement, donc on aura cette ristourne qui va passer de 30 centimes en septembre-octobre et qui va pas disparaître, qui va passer à 10 centimes sur les mois de novembre et décembre. Maintenant, oui, c'est vrai que nous aurions préféré avoir une mesure plus ciblée. Maintenant, je le redis encore une fois, les Français ont voulu avoir une Assemblée nationale diverse, variée, où les débats sur le fond existent et que les nuances permettent d'enrichir le texte. Il y a eu cette volonté de pouvoir avoir un prix grosso modo à 1,50€ le litre pour le carburant. Nous y sommes aujourd'hui avec l'ensemble des dispositifs que nous venons d'énumérer avant. Avançons, mais il ne s'agit pas simplement d'être sur des totems politiques, mais vraiment des actions citoyennes pour les Français.
Il se passe quoi au mois de novembre si le prix du carburant, et rien n'indique qu'il sera plus bas qu'aujourd'hui, et qu'on sera sorti de cette crise, lorsque la ristourne de Total va disparaître, lorsque la ristourne du gouvernement va passer à 10, on va se retrouver avec des prix à nouveau au-delà des 2€ au mois de novembre?
Vous savez, j'aimerais bien avoir une boule de cristal et dire quel sera exactement le prix au mois de septembre, quel sera exactement.
Mais rien n'indique qu'on sera sorti de la crise et pourtant les dispositifs vont disparaître, vont être réduits.
Rien n'indique que les prix vont flamber également. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas attiser ce qui est déjà très compliqué, c'est-à-dire cette crise inflationniste qui est angoissante pour tout le monde. Les entreprises, les ménages, l'ensemble des Françaises et des Français. Des dispositifs extrêmement importants ont été mis en place, je le répète, c'est 20 milliards d'euros. C'est pas anodin. Pour protéger les Français de façon ciblée, de façon extrêmement précise, sans venir endetter les générations à venir. Des mesures pourront être remises en place ou réévaluées s'il y a besoin parce que c'est toujours possible. Maintenant, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de préparer cette rentrée et de la préparer sereinement, ce que ces deux textes nous permettent de faire.
Merci Prisca Trezet-Evenot d'être venu répondre à mes questions en direct, députée des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance, les textes pouvoir d'achat qui devraient être adoptés d'ici la fin de la semaine définitivement, ce qui mettra les députés et vous-même en vacances. Bel été à vous, merci.